Et c'est toujours un grand plaisir de retrouver le duo choc Philippe Denis, Diego Arabal pour un jour un livre en auteur. On va dire, allez, on va un petit peu se glorifier. On peut dire que votre chronique littéraire, messieurs, eh bien, c'est pas une chronique littéraire voilà, qui est pénible à écouter. Au contraire, vous faites vivre les livres.
On fait vivre des livres.
Oui,
bon,
tout
bonjour
à fait,
Philippe
on
Marcasse,
essaye.
bonjour Diego Arabal.
Bonjour Diego, bonjour Diego,
voilà,
bonjour Philippe.
On va y arriver, on va y arriver.
Cette fois-ci, c'est Diego Arabal
c'est
qui sera
Diego Arabal, mais c'est comme ça arrive. Bon, on a des livres, effectivement, comme vous dites, avec des thèmes extrêmement différents. Et aujourd'hui, on va parler quand même d'un thème qui s'est déroulé ici, qui va parler de ces êtres d'exception que parfois l'histoire a négligemment oubliés dans les plis de sa mémoire. L'homme dont nous allons parler maintenant en fait partie. Dans une période aussi troublée que troublante que fut l'occupation dans notre pays, cette personne a conservé sa boussole orientée vers la lumière. Comme bien d'autres, ce passeur a permis à des êtres en quête de liberté de rejoindre le général de Gaulle à Londres ou de mettre en sécurité des gens qui avait simplement le tort d'être juif. Pour mettre en exergue cet homme et rappeler combien lui doivent la vie, nous allons recevoir sa fille qui a écrit ce récit, le passeur, ce héros de la résistance qui a conduit 953 personnes en Espagne, publié aux éditions Confident. Bonjour Annie Olazabal.
Bonjour, bonjour à vous tous. Merci de me recevoir.
Merci d'avoir
Bonjour.
accepté notre invitation sur les ondes de présence pour évoquer avec nous l'histoire singulière de votre père, donc qui s'appelait Michel Olazabal, qui fut résistant dans les Pyrénées-Atlantiques durant la Seconde Guerre mondiale. Je vais lire la
Oui.
quatrième de couverture de votre récit et on en parle après.
D'accord.
Cet homme, Michel Olazabal, est un héros. Grâce à lui, 953 personnes ont pu, entre mars et juin 1943, fuir la France occupée pour passer en Espagne. Des pilotes alliés, des agents de renseignement, des juifs, des antifascistes allemands, des réfractaires du STO, le service du travail obligatoire, des hommes et des femmes, parfois des familles avec enfants, qui tous ont pu franchir les Pyrénées au terme de marches aussi éprouvantes que dangereuses. Jusqu'à ce jour de juin 1943, où des Français collaborateurs enrôlés dans une unité militaire allemande ont intercepté un des groupes convoyés par Michel. Brûlé, celui-ci a dû passer en Espagne à son tour, d'où il a continué de travailler pour les services secrets français. Cet homme est un héros, et pourtant, cet homme dut porter jusqu'à sa mort le poids du plus terrible des soupçons. Celui d'avoir trahi ce qui l'emmenait avec lui vers la liberté. Annie Olazabal, vous êtes la fille donc de Michel Olazabal, donc qui était passeur durant la Seconde Guerre mondiale. Comment avez-vous découvert l'histoire de ce père que vous ignoriez en partie durant votre enfance et votre adolescence?
Eh bien, effectivement, je suis la troisième d'une fratrie de 11 enfants. Et j'ai grandi dans cette famille sans jamais rien savoir. Et le 11 novembre 1983, alors que je suis au travail, alors d'abord, il faut que je dise que mon père est décédé en 1982, le 11 septembre. Et le 11 novembre 1983, je suis au travail et mon frère m'appelle, un de mes frères m'appelle en pleurs. Il sanglote et il me dit, papa est sur le journal. Papa est sur le journal, mais qu'est-ce que tu racontes? Papa, il est mort, papa. Et je lui dis, tu es malade, où es-tu? Je suis à la cabine, puisqu'on est en 1983. Et il me dit, il y a des photos de lui sur le journal et il y a deux pages. Donc effectivement, je me procure quelques minutes après le journal Sud-Ouest. Effectivement, je découvre des photos de mon père sur deux pages et le récit d'une résistante, Paul Lippmann, qui raconte sa vie de résistante et qui raconte qu'elle a travaillé avec Michel Olazabal, dont elle donne les photos, et trois frères basques. C'est comme ça que nous découvrons en famille que mon père était non seulement résistant, mais aussi passeur.
Comment vous expliquez, Aneuro Olazabal, qu'il y ait eu cette chape de plomb, ce silence, et que derrière, effectivement, ben, ça vous a amené à écrire ce livre, Le Passeur, aux éditions Confident, avec ce bandeau sur votre livre, ce héros de la résistance qui a conduit 953 personnes en Espagne. C'est pas une paille. Comment vous l'expliquez, ça?
Alors, je crois que l'explication, elle est dans le nœud du livre, c'est l'affaire de Barcus. Parce que maman, quand on découvre que mon père était passeur, est encore vivante. Donc nous allons le soir même la questionner. Et elle se ferme et elle dit oui, il passait déjà en Espagne, mais c'était pendant la guerre. Oui, mais quand même, laissez tout ça, on en a assez souffert, ça va. Et plus on insiste et plus elle se ferme. Mais il faut que je dise que la dernière phrase sur cet article de journal, sur ces deux pages, nous harponne un petit peu, surtout le dernier mot. Paul Lippmann, cette résistante qui raconte, dit « Il se souviendra longtemps de sa dernière randonnée la plus cruelle ». Et ce mot « cruel » veut dire quelque chose. Nous questionnons maman, mais qu'est-ce qu'elle veut dire, Paul, quand elle dit « cruel », qu'est-ce que c'est? Et là, maman pleure. Donc, on n'insiste pas et on décide en famille d'aller chercher. Surtout accompagnée d'une de mes sœurs qui a un an et demi de plus que moi, nous allons chercher. On va un petit peu aux archives, mais on ne sait pas s'y prendre, on ne sait pas chercher. Et je me souviens que mon père avait un ami qui était, lui, résistant. Mais enfant, ça c'est un souvenir d'enfance, mais enfant, je ne savais pas ce qu'était qu'un résistant. Ça aurait pu être un métier, une nationalité, je ne sais pas, mais je sais qu'il était résistant et qu'il s'appelait Mazou. Donc, on est 40 ans après, en 83, et on se dit peut-être que ce Mazou, on pourrait le retrouver s'il est encore vivant. En 83, nous n'avons pas, comme maintenant, Internet, et on se met, on se partage la tâche, les uns font bière, pot, tarbe, bon voilà, et on cherche sur le bottin avec notre petit doigt, on se fait des grandes listes de mazou et on appelle. Et là, à la question, est-ce que c'est vous qui avez connu Michel Olazabal, là, tout le monde nous dit non, pas nous, pas ma famille. Et à un moment donné, je trouve un mazou sur billère qui me dit « Oh, mon ami Michel, j'ai vu il y a 3 semaines 2 pages sur le journal, mais enfin on le met à l'honneur. » Et là, il comprend notre étonnement et je lui dis « Mais nous ne savions rien et maman ne veut pas raconter. Comment ? Il ne vous a pas raconté ? Mais moi, j'étais un de ces chefs de réseau. Je vais vous dire tout ce que je sais. »
Et vous commencez ce travail, et alors vous en parlez, hein, je vais lire en page 19 de votre ouvrage, donc Aneuro Olazabal, Le Passeur, donc aux éditions Confident, ce que vous écrivez. « Je manque un peu de courage. Ma démarche est gonflée. Je me présente comme une journaliste de la République des Pyrénées. Nous n'avons pas l'accent basque. Mais ces habitants de Barcus répondent à mes questions. Il raconte ce jour du 23 juin 1943 quand le jeune fils de la ferme a été tué et une trentaine de personnes relativement jeunes ont été arrêtées par une unité allemande. Des Allemands qui, au dire des villageois, parlaient tous français. À ce moment-là, nous ne comprenons pas trop et nous pensons à la milice. J'ose aborder la possible responsabilité du passeur. Au moment des faits, la question s'était posée, disent-ils, mais à présent, personne n'y songe. On a compris que Michel, qui revenait avec un autre groupe, avait été prévenu à temps par la ferme en amont et qu'il avait pu faire demi-tour et sauver ainsi le deuxième groupe. Les soupçons sont alors retombés assez vite, mais peut-être pas pour tous. Le patron du café nous indique la maison d'une femme qui a vécu de très près ce drame. Elle était proche de la famille qui a perdu son enfant. Nous lui rendons visite. Elle nous raconte ce qu'elle sait, nous confirme qu'un relent de suspicion envers Michel a plané longtemps dans certains esprits. Elle nous incite à rendre visite à Marie Lagune, la sœur du jeune homme, il s'appelait Jean-Pierre, assassiné en juin 1943. Nous nous présentons à la ferme, toujours en journaliste bien sûr. Marie était très jeune à l'époque, même pas 15 ans, mais elle se souvient très bien. Ce drame est imprimé à jamais dans sa mémoire. Question à Niel Ozabal, là, quand je lis donc en page 19 et en page 20 donc, de votre récit Le Passeur aux éditions Confident, est-ce que vous pensez que, à travers ce que vous dites là, c'est la raison pour laquelle votre papa ne vous a jamais parlé de ses activités de passeur, parce qu'il pensait qu'à un moment donné, on aurait pu le mettre en cause et il n'aurait pas supporté que vous puissiez avoir l'image d'un père qui aurait pu trahir, ce qui n'est pas le cas dans ce que vous racontez dans votre livre. Est-ce que vous pensez que c'est la raison pour laquelle votre père et votre mère ne vous ont jamais communiqué ce récit jusqu'à cet article de Sud-Ouest ?
Oui, c'est certainement, au départ, la première raison. Certainement. Mais il y a aussi le caractère de mon père, et bien sûr de ma mère, puisqu'on le découvre dans le livre, qu'il devait penser qu'il avait fait ce qu'il avait à faire. D'ailleurs, c'est les mots de ma mère. Mais pourquoi parler de ça? On a fait notre devoir. Il fallait, nous étions bien obligés, vous l'auriez fait. Et ça revient dans son récit. Donc, je pense que mon père a porté cette douleur toute sa vie, puisque nous trouverons, en 79, nous trouverons une lettre, enfin le carbone d'une lettre, qu'il écrit à quelqu'un, qu'il appelle Messieurs, donc ça doit être un organisme, mais nous n'avons pas, bien évidemment, les noms des destinataires. Et il dit, je chercherai 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, mais je trouverai. Donc cet homme-là, toute sa vie, tout seul, il a cherché. C'est dommage qu'il ne se soit pas fait aider par quelqu'un, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il a porté certainement ce voile, ce soupçon. Ma mère n'a jamais douté, mais ma mère étant native de Barcus, enfin Ordiap exactement, elle avait ses sœurs qui vivaient, ses nombreuses sœurs qui vivaient tout autour, qui étaient mariées ou qui travaillaient autour, qui lui avaient dit, surtout ne reviens pas à Barcus, hein, parce que là ça parle trop, on a été interrogé, on a eu trop peur. Et ma mère passera 40 ans sans revenir dans son village de Barcus.
C'est terrible. Hein. Alors pour les personnes qui prennent cette interview en cours de route, hein, on rappelle que nous recevons Niel Ozabal pour son récit Le Passeur, ce héros de la résistance qui a conduit 953 personnes en Espagne aux éditions Confident. Je vais lire un passage en page 103 justement quand vous en parlez, quand votre papa donc est contraint de quitter la France, hein, c'est en page 103 de votre ouvrage, oui. Vous écrivez donc au chapitre 3 « L'Espagne pour Michel ». Le 8 juillet 1943, après tant d'autres avant lui, Michel franchit la frontière. Il sait ce qu'il attend. Une période plus ou moins longue et pénible de détention, mais il n'a pas le choix. Le pays de Franco n'est pas une terre amie. L'occupation de la zone libre par les Allemands en novembre 1942 a provoqué l'exil de nombreux jeunes Français désireux de rejoindre l'Afrique du Nord pour fuir le service du travail obligatoire et reprendre le combat contre l'occupant. En janvier 1943, 3000 de nos compatriotes sont déjà en Espagne. 23000 vont suivre en 18 mois. L'ambassadeur à Madrid, François Pietri, fidèle au gouvernement de Vichy, a obtenu que ces hommes ne soient pas refoulés et remis aux Allemands, mais simplement internés. Le soin de s'occuper d'eux échoit à Monseigneur Boyer-Mas, prélat du pape, attaché culturel et chapelain de l'ambassade de France, délégué de la Croix-Rouge en Espagne. Celui-ci agit sous les ordres du colonel Malaise, qui représente les autorités d'Alger depuis décembre 1942. En février 1943, Boyer-Mas obtient les premières libérations de Français internés. Le mois suivant, rallié officiellement au général Giraud, il s'installe dans les locaux de la mission officieuse d'Alger, Calier San Bernardo. Les premiers départs massifs vers l'Afrique du Nord ont lieu à partir de mai 1943. En juillet, 1200 Français embarquent. La durée des séjours dans les camps des prisons espagnoles va baisser de façon spectaculaire. Le dernier rapatriement massif aura lieu en juin. En août 1944, 410 évadés de France embarquent sur un paquebot depuis Gibraltar, dont certains ont franchi la frontière à peine 5 jours plus tôt. Pour votre père là, et pour votre mère aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est une période très douloureuse. Elle ne sait pas où est son mari, il n'y a pas d'internet à l'époque, elle ne peut pas communiquer avec lui, elle ne sait pas s'il est vivant, elle ne sait pas s'il est mort, elle ne sait pas s'il a été effectivement... Donc interné ou quoi que ce soit.
Oui.
Est-ce que vous pensez que c'est une des raisons aussi pour laquelle votre mère n'en a pas parlé? Parce que pour elle, ça a dû être une souffrance terrible. C'est-à-dire qu'elle avait déjà des enfants. Elle devait effectivement s'en occuper sans savoir si son mari, effectivement, était encore là. Comment vous avez pris, vous, le fait que votre maman, à un moment donné, ait refusé d'en parler? Est-ce que vous pensez que la souffrance qu'elle a ressentie durant cette guerre ait pu, à un moment donné, être une des raisons pour lesquelles elle n'a pas voulu effectivement évoquer ça avec vos enfants et qu'elle s'est fermée un peu comme une huître quand vous lui en avez parlé?
Oui, sincèrement, enfin, certainement que c'est la raison. Parce que ce n'est que une fois qu'on lui met devant les yeux tous les témoignages des gens que nous avons recherchés, que là, elle se libère et qu'elle parle. Et surtout, après la première visite qu'elle va faire à Barcus, parce que nous l'amenons à Barcus, elle est dans l'émotion la plus complète. Et franchement, c'est un des plus beaux jours de ma vie d'avoir pu ramener, d'avoir vu l'émotion de ma mère ce jour-là. Enfin, elle était légitime là. Et je pense que se taire pendant toute cette période et garder ce silence, ça a dû être terrible. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas nous parler. Alors après elle se libère. Après, elle raconte. Mais elle nous dira, mais moi, vous avez dit, elle a des enfants. Oui, en 43, quand mon père est brûlé et qu'il est obligé à son tour de passer en Espagne, elle a une petite fille de 13 mois et elle est enceinte de 7 mois. Et là, ce jour-là, ce 23 juin 43, elle est prévenue par un chef du réseau haut placé à la préfecture qui vient et qui lui dit « Vite, vite, il faut partir, la Gestapo va arriver. » Et alors là, bien évidemment, en femme brave, voulant faire son devoir, eh bien, elle va se laisser prendre en main, se laisser exfiltrer. Elle ira accoucher à Toulouse dans une clinique clandestine sous un faux nom. Et elle passera 18 mois à attendre ce fameux signal que mon père lui avait promis de lui donner. Tu écouteras la radio et sur les ondes, si tu entends les cheveux de Michel poussent, ça voudra dire que je suis en vie.
Et elle va entendre ce message. Voilà. Et elle va entendre ce message. C'est ça qui est très émouvant dans votre livre, voilà. Annie Loisabal, Le Passeur, là aux éditions Confident. Moi, c'est un livre qui m'a énormément touché parce que bon, c'est un livre aussi d'ici, hein, ça se déroule dans les Pyrénées-Atlantiques, hein, donc sur un endroit qui est là. Moi, j'ai une question. Ce récit que vous avez fait, Annie Loisabal, Le Passeur, là, on a parlé de vos parents, on va parler des générations qui suivent, vos enfants. Est-ce que c'est pour eux que vous l'avez fait, pour qu'à un moment donné, cette mémoire soit conservée et cette volonté, à un moment donné, de transmission? Est-ce que c'est ça qui a été à l'origine de l'écriture de votre récit?
Alors, au tout départ, non, j'ai voulu aller à la rencontre de Michel, puisque je ne connaissais que papa, qui était tout un autre personnage. Mon père était un père très, très strict, très simple, très strict, je reviens sur ce mot, et je découvre, enfin, les gens découvriront dans le livre qu'il était un petit peu fêlé, comme on dit, hein, parce qu'il avait peur de rien, et il croyait, il était sûr de réussir, et il a foncé tout le temps. Donc, Voilà, que dire,
rajouter d'autres par rapport à ça. Alors, on a appris une chose aussi dans votre récit que moi j'ai découvert. Je m'étais toujours posé la question de savoir comment on passait les Pyrénées, notamment quand il neigeait, quand il y avait du gel. Et puis on apprend que tous les passeurs faisaient passer les Pyrénées en chaussant des espadrilles. Ce qui n'a pas manqué, moi, de me surprendre, je vous avoue, parce que c'est vrai que quand je fais de la montagne, je fais de la montagne avec des chaussures de marche qui puisaient dans la neige. Alors, moi, je connais la raison, mais je voudrais que ça soit vous qui nous l'expliquiez, la raison pour laquelle les passeurs chaussaient des espadrilles et faisaient chausser des espadrilles aux gens qu'ils faisaient passer. Allez-y, Annie Olazabal. Voilà.
Alors, pas pour toutes, ils faisaient chausser les espadrilles, pas pour tous les chemins. Hein. Je découvre dans les témoignages m'apprennent que, suivant le groupe qu'il avait, soit il avait un petit groupe que j'appelle actif, c'est-à-dire les témoignages nous apprennent qu'il met les alliés, qui sont jeunes, costauds, entraînés, et puis les jeunes qui filent le STO. Ils étaient la veille chez maman, ils ont mangé, ils n'ont même pas 20 ans, donc ils sont solides, on peut leur en demander. Là, ils vont passer en deux nuits, mais parce qu'il les fait passer par le pic d'Ory. Et au pic d'Ory, il sait qu'il ne peut pas emmener tout le monde parce qu'il y a une petite barre rocheuse qui n'est pas très importante, mais qui est très dangereuse. Et les trois quarts du temps, quand il arrive à cette barre rocheuse, elle est verglacée. Et certainement que ce n'est pas mon père qui a inventé, qui a eu cette astuce. Je suppose que les passeurs devaient se passer toutes ces astuces-là, les partager. Et bien, à un moment donné, à la dernière cabane de berger qu'on appelle Caillolard, juste avant d'arriver, il est fait déchausser et mettre des espadrilles que, bien évidemment, un complice, un berger, aura porté régulièrement, voilà, plusieurs pointures, des dizaines de paires d'espadrilles, parce que l'espadrille, on est en 43. Donc ça ne vient pas, c'est pas Made in China, hein, c'est fabriqué à Mauléon, avec de la vraie corde, donc, et cette corde, elle colle quand on met le pied sur la barre rocheuse, ça colle. Et ils nous décrivent dans leur récit, on est obligé à chaque pas de tirer parce que ça colle. Et c'est comme ça, ça leur sert de crampon en définitive.
C'est une astuce. Alors moi, je l'ai découvert, hein, je l'ignorais totalement. Et je dois vous avouer que quand je l'ai lu, je me suis dit ça. Voilà, il faut vraiment en parler, effectivement, au niveau de l'interview. Philippe Subercaz a une question à vous poser. Allez-y, Philippe.
Oui, bien sûr.
Voilà, vous parlez beaucoup de votre père, hein, de Michel, comme vous le dites.
Oui.
Mais c'est aussi une histoire de couple, parce que on mettait... voilà, l'homme aurait pu, ou le chef de famille aurait pu, effectivement, bien et c'est sûr. Ce qu'a fait votre papa, vouloir bien porter sûr. Aide, mais c'est toute une famille qu'on met en danger, parce que lorsque la Gestapo débarque, elle ne faisait pas... la différence entre le papa et le reste de la famille. Et donc, c'est aussi une histoire de couple. Et donc, votre maman aussi a accepté. Et elle est partie aussi en exil pendant quelque temps à Toulouse, vous l'avez dit. Là. Je découvre, hein, parce que je n'ai pas lu le livre, mais coup de chapeau aussi à votre papa, bien sûr, mais aussi à votre maman.
Mais ces hommes-là, dont, l'éditeur a voulu que je marque le mot « héros ». Sur la couverture, oui, bien sûr, mon père a été un héros, oui. Mais parmi tant d'autres, mais ces hommes-là, qui c'est qui les porte toujours? Eh bien, c'est les femmes.
Oui.
C'est les femmes. Sans les femmes qui étaient des agents de liaison exceptionnels sur leur petit vélo, qui portaient des messages « Attention, tel chef a été pris pour que l'équipe se mette au vert, vous allez avoir un parachutage tel jour, tel endroit ». Ces femmes qui, par exemple, quand les groupes étaient la journée, puisqu'ils ne marchaient que de nuit, quand ils étaient la journée cachés dans des granges, ces femmes-là, aller leur porter, pas des plateaux repas, non, mais la soupe avec du pain trempé ou du lait avec du pain. Ces femmes-là mettaient un torchon à une fenêtre pour signaler le passage est libre. S'il n'y a pas le torchon, ça veut dire que les Allemands sont dans le village ou dans le village à côté. Voilà, ces femmes-là dont on n'a pas parlé, c'est les grandes oubliées de cette période.
Il y a eu,
moi,
puisque vous en parlez,
je
Annie Loisabelle, puisque vous en parlez, c'est vrai que quand on regarde durant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup d'hommes décorés à l'issue de la libération. Il y a eu très peu de femmes décorées. Et j'ajouterai qu'on a tondu des femmes, on n'a jamais tondu d'hommes.
Non.
On aurait pu tondre des hommes, hein, puisque
il y en avait
qui... Voilà. Mais on a tout le temps reporté ça sur les femmes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que les historiens, et notamment Robert Paxton, hein, qui est cet historien américain spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, a effectivement mis en lumière dans ses travaux, par rapport à ce que vous disiez, Philippe Subercase, donc vraiment ces femmes... Voilà, qui ont été des héroïnes, alors, qui n'ont pas participé au combat, etc. Mais effectivement, comme vous le disiez, Annie Olazabal, qui ont passé des barrages, qui ont porté des messages et qui risquaient leur vie autant que les hommes.
Qui risquaient leur vie,
voilà,
mais bien sûr.
Et qui faisait vivre la famille, parce que c'est vrai que les hommes, bon, ils étaient au combat ou ils étaient en train de passer, mais il fallait regarder, vous nous dites bien que votre maman avait un enfant, elle était enceinte, elle a dû partir, et puis elle a dû gérer tout ça, le quotidien. Et c'est vraiment des actes aussi héroïques d'avoir fait ça, et d'avoir accepté aussi, parce que, voilà, on entraîne la famille dans une décision comme ça, toute la famille, enfants, femmes, et c'est vrai qu'il faut aussi que la compagne accepte.
Voilà, c'est pour ça que moi je recommande vraiment Annie Loisabal la lecture de votre récit donc aux auditeurs et aux auditrices de présence d'un jour un livre en auteur qui écoute nos chroniques littéraires depuis 11 années maintenant.
Et on va saluer bien sûr nos amis basques, parce qu'avec un nom comme ça on a bien compris que c'était au Pays Basque.
On a compris que oui, voilà, c'est effectivement comme ça, c'est typiquement un nom basque, on n'a pas besoin de le dire. Annie Loisabal, Le Passeur, ce héros de la résistance qui a conduit 953 personnes en Espagne. Le terme héros, comme vous le disiez, c'est votre maison d'édition, donc les éditions Confident, qui ont souhaité le mettre effectivement donc sur le bandeau.
Et on voit sur la couverture le portrait de votre papa.
Le visage. Alors, un visage dur, on voit bien que c'est une photo qui est prise pendant la guerre. Vous le mettez donc à l'intérieur, qui est prise donc durant la guerre. Alors on voit qu'il n'a pas beaucoup de cheveux, c'est pour ça que le message c'était Michel a les cheveux effectivement qui poussent.
Voilà, les cheveux de Michel poussent, ça voulait dire qu'il était vivant. Mais puisque vous avez lu le livre, vous avez pu voir que la période espagnole, c'est-à-dire à partir du 23 juin 1943, il est pas plus malin que les autres, il se fait prendre et il va être interné à Uberiaga de Ubilla. 2 mois après, il s'en évade, 2 jours après, on le retrouve à Madrid, mais là, il va travailler pour le Bureau central des renseignements et d'action, le BCRA. Et il va faire toute une autre mission, mais là, il va travailler... avec une identité espagnole, il a des vrais faux papiers et une perruque. Il va faire Madrid-Toulouse pour aller chercher des hauts chefs. Il passera entre autres le neveu de Gaulle, des ambassadeurs, des courriers.
Ce que je vous propose, c'est que effectivement le temps qui nous est imparti est arrivé. Est-ce qu'on peut faire une deuxième émission avec vous la semaine prochaine?
Avec plaisir.
C'est-à-dire, voilà.
Voilà, et on vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une autre émission. Et parce que le sujet est tellement intéressant, vous allez nous raconter un peu. J'aimerais qu'on rentre aussi dans les coulisses. Philippe Noni, vous qui avez lu le livre, un peu de toute cette organisation, des résistants, comment devenir résistant, comment lui, il a peut-être été approché pour qu'il le devienne, et puis prendre aussi à un moment cette décision qui emporte toute la famille. Je vous propose, mon cher Philippe, si vous le permettez,
oui,
bien sûr, de se retrouver, et mon cher Diego qui reviendra.
Je pense qu'il faut y consacrer
avec
deux
grand plaisir.
Avec grand plaisir.
Et puis en plus, on parle de l'Espagne, alors là, Diego, il est tout oreille.
Oui,
Diego Arabal à côté de moi, voilà, vous avez compris aussi que...
On se retrouve la semaine prochaine.
Allez,
à la semaine prochaine.